Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 avril 2026. Sujet, l'irréalité. Texte d'or, Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lecture alternée, psaume. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. La Bible. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit. Et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Je suis le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Car je vis, et vous vivrez aussi. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Voici ce qu'est la vie éternelle, dit Jésus. Ce qu'est, non ce que sera. Et ensuite il définit la vie éternelle comme une connaissance présente de son Père et de lui-même. La connaissance de l'amour, de la vérité et de la vie. Voici ce qu'est la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les Écritures disent « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cela montre que la vérité est la vie réelle de l'homme, mais le genre humain refuse de mettre cet enseignement en pratique. Question. Qu'est-ce que la vie ? Réponse. La vie est le principe, l'entendement, l'âme, l'esprit divin. La vie est sans commencement et sans fin. L'éternité, non le temps, exprime la pensée de la vie, et le temps ne fait pas partie de l'éternité. La vie est l'entendement divin. La vie n'est pas limitée. La mort et le fini sont inconnus à la vie. Nous reconnaissons que le crucifixion de Jésus et sa résurrection servirent à élever la foi jusqu'à la compréhension de la vie éternelle, voire de la totalité de l'âme, de l'esprit, et du néant de la matière. Si l'on abandonnait toute foi en la mort, ainsi que la crainte de son aiguillon, cela élèverait la norme de la santé et des mœurs bien au-dessus de son niveau actuel, et nous mettrait à même de tenir haut la bannière du christianisme avec une foi inébranlable en Dieu, en la vie éternelle. Notre maître réapparut à ses disciples selon leur compréhension. Il sortit du sépulcre, le troisième jour de sa pensée ascendante, et ainsi il leur présenta le sens certain de la vie éternelle. Les Juifs qui cherchaient à tuer cet homme de Dieu montraient nettement que leur vue matérielle était à l'origine de leurs mauvaises actions. Quand Jésus parla de reproduire son corps, sachant comme il le savait que l'entendement en était l'architecte, et qu'il dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai », ils pensèrent qu'il faisait allusion à leur temple matériel, tandis qu'il parlait de son corps. Pour de tels matérialistes, l'homme réel semblait être un spectre invisible et inconnu, et le corps qu'ils déposèrent dans un sépulcre semblait être substance. Ce matérialisme perdit de vue le véritable Jésus. Mais la fidèle Marie le vit, et pour elle, il représenta plus que jamais auparavant la vraie idée de la vie et de la substance. En raison de leurs croyances matérielles et pécheresses, les mortels ne pouvaient percevoir le Jésus spirituel. Plus sa démonstration de la science divine plaçait le problème de l'être sur un plan élevé, et plus il proclamait clairement les exigences du principe divin, la vérité et l'amour de cette science, plus il devenait odieux aux pécheurs et à ceux qui, s'appuyant sur les doctrines et les lois matérielles pour s'affranchir du péché et de la maladie, se soumettaient à la mort comme si celle-ci était conforme à la loi inévitable de la vie. Jésus prouva par sa résurrection qu'ils étaient dans l'erreur et dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » L'origine et la compréhension spirituelle de Jésus lui permirent de démontrer les faits de l'être, de prouver d'une manière irréfutable comment la vérité spirituelle détruit l'erreur matérielle, guérit la maladie et triomphe de la mort. Le maître disait clairement que le physique n'est pas esprit, et après sa résurrection, il prouva au sens physique que son corps n'était pas changé avant son ascension, en d'autres termes, avant qu'il s'élevât encore plus haut dans la compréhension de l'esprit, Dieu. L'état physique inchangé de Jésus, après ce qui semblait être la mort, fut suivi de son élévation au-dessus de toute condition matérielle, et cette élévation expliqua son ascension et révéla incontestablement un état d'épreuve et de progression au-delà de la tombe. Jésus était le chemin, c'est-à-dire qu'il traça le chemin pour tous les hommes. Dans sa démonstration finale, appelée l'Ascension, qui mit fin à sa carrière terrestre, Jésus s'éleva au-dessus de la perception physique de ses disciples et les sens matériels ne le revirent plus. Ses disciples reçurent alors le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'en raison de tout ce qu'ils avaient vu et souffert, ils furent réveillés à une compréhension plus étendue de la science divine, voire à l'interprétation et au discernement spirituel des enseignements et des démonstrations de Jésus, ce qui leur donna une faible conception de la vie qui est Dieu. En raison de tout ce que les disciples avaient appris par expérience, ils devinrent plus spirituels et comprirent mieux ce que le Maître avait enseigné. Sa résurrection fut aussi leur résurrection. Elle les aida à s'élever et à élever les autres hors de la léthargie spirituelle et de la croyance aveugle en Dieu jusqu'à la perception des possibilités infinies. Ils avaient besoin d'être ainsi vivifiés, car bientôt leur maître bien-aimé allait s'élever de nouveau dans le royaume spirituel de la réalité, bien au-delà de leur perception. En récompense de sa fidélité, il allait pour le sens matériel disparaître dans cette transformation que depuis on a appelée l'ascension. À notre époque, le christianisme démontre de nouveau le pouvoir du principe divin comme il le fit il y a plus de 1900 ans par la guérison des malades et le triomphe sur la mort. Dans le sanctuaire sacré de la vérité, des voix d'une signification solennelle se font entendre, mais nous n'y prenons pas garde. Ce n'est que lorsque les prétendus plaisirs et douleurs des sens disparaissent de notre vie que nous découvrons des signes indiscutables de l'ensevelissement de l'erreur et de la résurrection à la vie spirituelle. La vérité ne sera pour nous la résurrection et la vie que dans la mesure où elle détruit toute erreur et la croyance que l'entendement, la seule immortalité de l'homme, peut être entravée par le corps et que la vie peut être assujettie à la mort. Pour l'entendement mortel, la matière est substantielle et le mal est réel. Cette mentalité matérielle charnelle, nommée à tort entendement, est mortelle. Par conséquent, l'homme serait annihilé, n'était l'union indissoluble entre le véritable homme spirituel et son Dieu, union que Jésus révéla. Par sa résurrection et son ascension, Jésus montra qu'un homme mortel n'est pas l'essence réelle de l'homme et que cette mortalité matérielle irréelle disparaît en présence de la réalité. La vérité démontrée est la vie éternelle. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.